Europe 1 Culture Média.
9h, 11h. Pascal Clark.
Bonjour, bonjour. Et alors, c'était beau, hein, quand même. Quoi donc ? Eh bien, la fête nationale, malgré tout, malgré les festivités sous cloche. Une demi-heure de feu. Artifice dans l'obscurité, Stephen Bern et ses belles chaussures, la tour sous ses plus tendres coutures. C'est beau, une ville masquée la nuit. Le virus peut bien nous menacer. À la télé, hier soir, Paris scintillait. Normalement, on devait regarder à travers l'écran, regarder de loin sans toucher, mais voilà. Des Parisiens se sont massés ici ou là, sur quelques hauteurs de la ville ou sur quelques ponts. Voir ça de leurs yeux, malgré tout. Mettez-vous à leur place, un très beau gâteau, très appétissant dans la vitrine. Et il faudrait le voir de loin, sans y goûter. Au menu ce matin de Culture Média, quelques sucreries à consommer sans restriction. Pourquoi le podcast se prête-t-il si bien au récit de l'intime ? La journaliste de 30 ans, Lucie Michaelian, a retrouvé le journal intime de ses 14 ans, face à face entre l'ado qu'elle était et la jeune femme qu'elle est devenue. Elle est notre invitée. Cyril Ferraud, animateur de jeux télévisés, sa carte au trésor revient ce soir sur France 3. Un inédit en Corse du Sud, c'est quoi un bon jeu à la télé ? Il vient nous expliquer. Et puis dans la partie culture, après le journal de Damien Cabrespine, nous serons en compagnie de la commissaire de l'exposition Christo et Jeanne-Claude au Centre Pompidou à Paris. Quel était ce geste artistique et cette obsession à empaqueter des monuments comme le Pont Neuf en 1985 ? Culture Média d'été commence à l'instant. Belle matinée à vous, cela va sans dire. Immédiatement, le journal des médias. Bonjour Martin Cangelosi.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Au sommaire ce matin.
Fini la concorde nationale, c'est la guerre de partout, entre le peuple et les puissants, entre les prétendants pour France Télé, entre Molotov et M6, et entre des civils et des militaires.
Et l'on commence par la guerre des audiences. D'abord, évidemment, cette question, combien de personnes devant Emmanuel Macron hier soir sur TF1 et France 2 dès 13h20 ?
8 millions de téléspectateurs ont regardé le chef de l'État. Il va falloir rajouter dans quelques minutes les audiences des chaînes info que l'on connaîtra en fin de matinée. Alors 8 millions de téléspectateurs, c'est un bon score, mais on est loin des allocutions du président de la République. Il y a un mois, quand Emmanuel Macron était venu à la télé parler déconfinement, il avait réuni 23 millions de Français.
Et puis on ne peut pas comparer évidemment avec un autre 14 juillet face à deux journalistes, puisque c'était son premier. Les audiences par ailleurs, Martin ?
Hier soir, c'est TF1 qui s'impose avec le film Jurassic Park 3, 3 800 000 téléspectateurs. Spectateurs. France 3 est juste derrière avec son téléfilm Meurtre en Cornouailles, 3 400 000 téléspectateurs. Et puis le concert de Paris, vous y en parliez, cette Tour Eiffel qui scintille, 2 800 000 téléspectateurs devant le concert de Paris sur France 2.
Culture Média. Et l'on commence ce journal des médias, Martin, avec la plateforme Netflix qui vient de donner une date pour sa nouvelle production française.
Octobre, en octobre prochain, dans 2 mois et demi, on pourra découvrir Révolution. C'est le nom de cette série, Pascal, Made in France. Alors on en sait un tout petit peu plus. En tout cas, on commence à deviner l'ambiance qui va régner dans cette nouvelle super production. Hier, un teaser a été dévoilé pour la fête nationale. Et ça commence par une musique qui fait peur. Révolution.
Ça fait peur,
oh
là
non
là.
Et écoutez le scénario, Révolution, c'est une série fantastique qui se passe quelques mois avant le soulèvement du peuple parisien contre Louis XVI. Mais ne pensez pas qu'il s'agit d'une fresque historique. Révolution, ce sera l'histoire d'un médecin qui enquête. Depuis quelques jours, les aristocrates et la royauté sont contaminés par un étrange virus. Décidément, les virus, leur sang devient bleu. Ils finissent par s'attaquer violemment au peuple. Rendez-vous à l'automne pour en voir un peu plus.
On continue avec le CSA qui va dévoiler dans la journée le nom des candidats à la présidence de France Télévisions.
Et on va enfin savoir combien de prétendants se sont lancés dans la course. Alors on sait déjà que Delphine Ernotte, l'actuelle présidente de France Télé, veut continuer le boulot qu'elle a entamé il y a 5 ans. 3 autres postulants se sont aussi déclarés publiquement. Il y a un représentant syndical de la maison, il retente sa chance cette année. Il y a aussi Étienne Pommier, c'est le conseiller numérique du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Étienne Pommier, on voit qu'il est très aguerri aux campagnes politiques. Il a déjà changé sa bio Twitter ou sa présentation LinkedIn avec cette mention « candidat à la présidence de France Télé ». Face à ce trio, le journaliste sportif Michel Goldstein, tout va désormais aller très très vite. Première audition dès lundi prochain et le nom du finaliste sera donné d'ici une petite dizaine de jours.
Et le nom des candidats aujourd'hui même. Hein, on commentera évidemment ça demain dans Culture Média. France Télé qui se renforce sur l'application Molotov.
Alors Molotov, je ne sais pas si vous connaissez, c'est cette application sur votre téléphone ou votre tablette qui vous permet d'avoir votre télé dans la poche et de la porter dans le métro ou dans la salle d'attente de votre médecin. C'est aussi la solution idéale pour avoir accès en un clin d'œil au replay de plusieurs chaînes de télé. Et aujourd'hui, c'est France Info, le canal 27 qui débarque sur Molotov. Tous ces programmes sont désormais disponibles en rattrapage. France Info est la troisième chaîne d'info en replay sur Molotov, après BFM TV et France 24.
Il est un groupe avec qui c'est beaucoup plus tendu, le groupe M6.
Depuis plus d'un an et demi, c'est la guerre entre Molotov et M6. Pour faire simple, M6 dit à Molotov, nos émissions vous rendent attractifs et si vous voulez que L'amour est dans le pré ou Incroyable talent soit disponible chez vous, vous devez d'abord nous faire un petit chèque. Molotov.
Monnaie.
De l'argent, beaucoup d'argent. Molotov refuse en disant non, M6 est une chaîne gratuite. Nouveau jugement du tribunal de commerce de Paris, c'est très sérieux. Molotov et M6 doivent se retrouver très vite autour de la table et faire la paix. C'est un ordre, disent les juges.
On termine avec ce nouveau programme qui sera donc peut-être bientôt disponible sur Molotov. Un programme M6, Force spéciale, l'expérience.
Les forces spéciales, ce sont des militaires d'élite. Ce sont eux, par exemple, qui sont chargés de libérer un otage au fin fond du désert ou de mener des opérations clandestines sans laisser de traces. Et M6 a mis au défi 22 hommes et 3 femmes de passer à la sélection. C'est un mélange de documentaires et de télé-réalité. Ça commence le 4 août, mais les premières images viennent d'être dévoilées. Et forcément, la voix off, elle est grave, elle est très grave. Est très sérieuse.
La résistance physique est indispensable, mais elle ne suffit pas, car le vrai test est dans la tête.
Allez, c'est maintenant qu'on est dans le dur, là.
On change.
J'ai plus de force.
Relève-toi, arrête de pleurer.
Dépêche-toi.
La seule question à se poser, c'est est-ce que je pourrais faire confiance à ce gars-là? Est-ce que je pourrais mettre ma vie entre ses mains?
C'est dans la tête, les gars.
Défends-toi.
On dit souvent que lorsque le physique lâche, le mental prend le relais. Mais le mental a aussi ses limites.
Pour ces hommes et ces femmes, le seul gain est la fierté d'arriver au bout de ce stage.
Ça sent la testostérone, hein, Martin.
Il y a de la sueur, plus que de la testostérone, beaucoup de sueur. Il y a aussi des larmes quand même, beaucoup de larmes, parce que Ryan, le chef instructeur qui fait passer la sélection, n'épargne rien à ses candidats. Quand il ne vous fait pas faire un trek pendant des heures en forêt avec un sac de 45 kilos sur le dos, il vous met une cagoule sur la tête et vous trimballe d'un endroit à l'autre.
On ne cherche pas forcément l'excellence dans chaque domaine. On ne peut pas être excellent partout, mais on doit être au moins très bon partout.
C'est adapté d'un programme anglais et ça cartonne chez nos voisins. Ils en sont déjà à la 4e saison.
Ah bah vivement, franchement.
Ça vous fait envie?
Ah ouais,
45
kilos
sur le
dos. C'est rien de le dire. Merci à vous, Martin Cangelosi, et à demain.
À demain.
Musique. Mon titre du jour sur Europe 1. Plutôt lent, plutôt sensuel. Lana Del Rey, Video Games. Bonne matinée à vous.
Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take that body downtown. I say you the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on, go play a video game. It's you, it's you, it's all for you, everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you, tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey, is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two, only worth living if somebody is loving you. Baby, now bars, swinging with the old stars, living for the fame.
kissing in the blue dark, playing pool and wild dots video games. He holds me in his big arms, drunk and I am seeing stars. This is all I think of. Watching all our friends fall in and out of old clothes. This is my idea of fun, playing video games. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I. Only with living if somebody is loving you. And baby, now you do. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. Only worth living if somebody is loving you.
Les video games de Lana Del Rey sur Europe 1 dans Culture Média. On parle podcast dans un instant, face à face avec soi-même et intimité. À tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Pascal Clark.
Comment étiez-vous à l'âge de 14 ans? Que ressentiez-vous? Qu'aviez-vous en tête? Vos parents vous énervaient-ils? Rêviez-vous à l'amour, fleur bleue ou charnelle? Parce qu'elle a retrouvé le journal intime de ses 14 ans, la journaliste de 30 ans, Lucie Michaelian, se confronte à la jeune fille qu'elle était. Elle le fait dans une série de podcasts produits par le studio Paradiso. Et elle est dans le Culture Média ce matin. Bonjour Lucie Michaelian.
Bonjour.
Déjà 2 épisodes en ligne de votre série Mes 14 ans, enfin disons 3, car le 3e est annoncé aujourd'hui.
Il vient de sortir,
il est posté. Et à chaque fois, mine de rien, c'est un pincement au cœur pour vous ?
Un petit peu, oui. Se révéler autant, ça fait un petit peu peur.
Bah ouais, j'imagine. Qu'est-ce qui vous a pris ? Vous confrontez à celle que vous étiez à 14 ans. Lucie, comment c'est arrivé cette histoire ? On raconte que la jeunesse, tout est la faute de punaises de lit.
Exactement. Donc je ne sais pas si vous avez déjà eu des punaises de lit.
Heureusement non.
Ouais, je crois que c'est la pire chose qui puisse arriver. Peut-être pas, mais une des pires choses. Mes parents avaient eu des punaises de lit et du coup, on avait dû tout congeler, l'intégralité de leur appartement. Et puis après, tout remettre dans l'appartement comme une sorte de réemménagement. Et moi, j'avais retrouvé ma chambre complètement réinstallée par mon père. Et au milieu, ce journal intime, vraiment très facile d'accès, qu'on peut ouvrir hyper facilement. Et je m'étais dit, mais mon Dieu, j'espère que mon père n'a pas ouvert ce journal intime. Et ça, c'était vraiment ma hantise.
Et donc, vous retombez sur ce journal intime, 16 années se sont écoulées. Vous y aviez repensé à cet objet et surtout à ce qu'il contenait? Ou alors c'était dans un coin comme ça de votre tête, de vos souvenirs?
Ce journal intime, c'est le journal que je tenais quand j'avais 14 ans. On était donc en 2003, maintenant donc ça fait 17 ans. Et j'étais en 3e et c'est l'année où je perds ma virginité. Et du coup, il y a beaucoup de détails sexuels, mais de manière générale, de toutes mes premières fois, de toutes mes premières émotions. Et du coup, à chaque fois que je retombais dessus, j'avais envie de le jeter parce que j'avais tellement honte de ce que j'écrivais à cette époque-là que je me disais, mais c'est pas possible d'avoir écrit des choses comme ça à 14 ans, en fait.
Alors, visiblement, la honte est passée parce que cet objet, maintenant, est sur la place publique. Hein. On va parler de ce podcast. Est-ce que, quand vous le relisez, cette personne, cette jeune personne qui a 14 ans, c'est vous, mais c'est peut-être plus vous. Quel regard portez-vous sur elle quand vous lisez comme ça, première impression?
Du coup, j'ai plus honte, en effet, parce que je pense que là, j'ai 30 ans et puis je suis certainement plus structurée aussi au niveau de tout ce qui est féminisme, etc. Et je pense que j'ai un regard plus tendre et plus bienveillant sur cette adolescente. Je suis moins dure avec elle. Je me dis pas, mais pourquoi t'as écrit ça? C'est horrible d'écrire ce genre de choses. Je me dis, t'as écrit ça certainement parce que à ce moment-là, tu ressentais des papillons dans le ventre ou alors peut-être parce que tu subissais toutes les injonctions de la société. Enfin, je suis plus tendre avec cette personne qui, en fait, était une personne en construction et qui est moi, mais aussi est un peu une autre, en effet, quelqu'un que je réapprends à découvrir.
Alors, d'où vient l'idée de vous confronter à vous-même et aussi, d'où vient l'idée d'en faire un podcast? Parce que le podcast correspond bien à l'intimité?
Je pense que le podcast, ça a cette vertu en effet de pouvoir plus se livrer parce qu'on ne subit pas le poids de la caméra. Et puis aussi, ce que j'aimais bien avec le podcast, c'est que pour raconter cette histoire très intime, c'est qu'on peut s'identifier plus facilement en fait. On ne sait pas à quoi je ressemble, on ne sait pas voilà, quelle tête j'ai, quel vêtement je porte.
On peut vous voir sur Europe 1.fr voilà. si on veut. Hein.
Voilà, mais en tout cas, j'aime bien l'idée qu'on puisse se dire ben, moi j'étais pareil, ou moi j'étais pas pareil d'ailleurs. Hein. On n'est pas obligé de trouver qu'on est pareil. Mais j'aime bien l'idée qu'on puisse se replonger dans cette époque-là aussi, parce que c'est une époque assez rigolote.
Donc
c'est
on est en 2003.
Ouais. Donc, bon, pour ceux qui voient de quoi je parle, mais c'est les années MSN, c'est le début un peu de la technologie comme ça. Il y a tous ces petits bruitages qui font un peu Madeleine de Proust, qui nous replongent dans une époque que les trentenaires commencent un peu aussi en ce moment à investiguer et à essayer de raconter comment c'était.
Mais 14 ans, on va écouter à quoi ça ressemble. 14 ans et une légère obsession sexuelle.
Maman a toujours pas dit à papa que je voulais faire l'amour et je suis toujours pas allée chez le gynéco. Bon, cela dit, je suis pas pressée. Mais personne ne comprend donc que c'est un sentiment sain.
À 13 ou 14 ans, tout est un événement. Chaque étape qui mène à la première fois est importante. Et il y a une sorte d'ordre des choses que je me sens obligée de respecter. D'abord, je dois le dire à ma mère. Ensuite, elle doit le dire à mon père. Et enfin, je dois aller chez la gynéco pour demander la pilule. Pourquoi est-ce que je suis ce plan avec autant de rigueur? Pourquoi est-ce que j'ai intériorisé, sans jamais remettre en question, cette invasion complète de ma vie sexuelle? Pourquoi faut-il que mon père soit au courant? C'est à la fois très progressiste, avec ce côté 68 heures libéré, et en même temps très archaïque.
14 ans et cette obsession de le faire, à l'époque, si vous vous en souvenez, c'était davantage les hormones ou la représentation de ce que vous voyez dans les feuilletons de l'époque, ce que vous entendiez dans les chansons?
Je pense que c'était les hormones, en fait. Et c'est justement ça que j'essaye de montrer aussi dans ce podcast. Et il y a une phrase que je cite, que je m'auto-cite de mon journal. C'est un moment, j'ai écrit cette phrase que je trouve très mignonne et qui veut dire beaucoup. Je dis, mais personne ne comprend donc que c'est un sentiment sain. Et je pense que c'est un petit peu le fil rouge.
Oui, c'est sain de vouloir faire l'amour. Pourquoi insistez-vous là-dessus?
Parce que je pense que le désir féminin, ça a souvent été relégué au second plan, comme si c'était un peu secondaire comparé au désir masculin, qui était plus facile d'approche, qui était souvent, on a souvent dit quand même, maintenant on le dit moins, mais que les hommes avaient des besoins, contrairement aux femmes. L'orgasme féminin, le clitoris, c'est souvent quelque chose dont on a peu parlé. Et je pense que moi, j'avais naturellement, mais comme beaucoup d'autres filles, mais qui le disaient peut-être moins, cette envie d'aller au bout de mes désirs et d'en parler et d'essayer de faire ça bien, chacun fait ce qu'il veut, hein. On n'est pas tous obligés de faire ça.
Non, on est obligé de rien, et quand on n'est pas obligé d'ailleurs, c'est plutôt mieux. Un jour, sur une page de votre journal intime, le journal intime de vos 14 ans, Lucie, il est écrit « Je l'ai fait avec des petites fleurs ». Quelle date ?
C'était le 19 novembre 2003.
Et forcément, je vais vous demander si c'était bien, parce que c'est ça l'intime. On rentre dans votre vie, on se croit tout permis, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Pascal Clark.
Mes 14 ans est un podcast signé Lucie Mécaillon. C'est aussi un compte Instagram avec capture photo des pages de votre journal intime. Vous l'avez apporté d'ailleurs, il est lourd quand même.
Il est très
chargé,
gros. Hein.
Très, très gros. C'est sur Instagram que vous recevez les réactions, le plus de réactions?
Oui, sur Instagram, je reçois beaucoup de réactions positives, justement de femmes, mais aussi de garçons, de filles, de garçons. Qui sont souvent super déjà gentils, mais aussi qui parlent de leur propre désir et du fait que ça leur fait du bien d'écouter une parole sur ce désir un peu décomplexé ou voilà, pour briser les tabous et casser peut-être un peu le mythe aussi de la jeune fille. Et après, il y a les commentaires négatifs aussi, mais c'est pas trop sur mon Instagram.
Ouais, et pour les négatifs, c'est...
C'est sur Twitter.
Oui, c'est sur Twitter, mais c'est quel genre?
En fait... C'est beaucoup de garçons, on va pas se mentir, qui sont fâchés, qui trouvent que je suis trop décomplexée peut-être aussi. C'est beaucoup de commentaires négatifs sur mes propos, en fait, et sur l'âge que j'avais à l'époque où j'écrivais ce que j'écrivais, à 14 ans. Mais en fait, moi, je m'en fiche un peu des commentaires négatifs parce que je trouve que, justement, ça montre encore plus l'utilité de ce podcast, qui est justement de montrer qu'il y a encore énormément de tabous sur la parole féminine et sur la libération du désir, etc. Et justement, je trouve que ça montre encore plus l'utilité du podcast.
Vous, mine de rien, c'est votre intimité adolescente qui est exposée. Il n'y a pas eu des moments où vous avez paniqué, sans jeu de mots, paniqué.
Oui, j'ai un peu paniqué. Je pense que quand j'ai reçu les commentaires Twitter, il y a un moment où je me suis dit, mais pourquoi je fais ça, en fait ? Et puis après, je me suis dit, écoute, assume. Et puis c'est bien. Finalement, je pense que ça a surtout réveillé les angoisses masculines, puisqu'on a beaucoup justement bridé, contrôlé nos corps, nos pensées pendant beaucoup d'années. Et je me dis, si ça fait encore un petit peu mal aux hommes, tant pis. Et puis je le vis plus comme... Voilà, j'ai l'impression que c'est beaucoup de solitude qui se rencontre un petit peu sur Twitter parfois aussi.
Les hommes, d'un côté, les femmes de l'autre, on sent ça dans vos propos, non ?
Alors, moi, je ne le pense pas du tout, puisque justement, je reçois beaucoup de commentaires positifs d'hommes. Mais sur Twitter, il faut avouer quand même que les commentaires les plus négatifs et les plus violents sont venus d'hommes. Après, je ne les ai pas tous lus parce que je ne suis pas maso.
Non, il ne faut pas.
Et après, il y a aussi des femmes qui disent que si c'est pas bien ce que je dis. Mais je trouve que c'est plus, les femmes étaient plutôt celles qui prenaient ma défense, entre guillemets.
Et ceux qui sont victimes de ce que j'appellerais une atteinte collatérale, c'est-à-dire ceux dont vous parlez dans votre journal intime, puisque vous en parliez à l'époque. Est-ce que ça vous pose question ?
Alors, ça m'a beaucoup posé question. J'ai à peu près parlé à tout le monde avant de commencer ce podcast. Et donc, les deux amoureux principaux de cette année-là ont accepté de participer, puisqu'ils sont interviewés aussi, puisqu'en fait, dans ce journal, je me raconte moi, mais je mène une sorte d'enquête aussi sur cette année-là. Et du coup, je m'interroge moi, mais j'interroge aussi les autres. Donc, j'interroge ma mère, mes amis de l'époque. Et du coup, c'est les deux garçons avec qui j'ai eu des histoires assez fortes cette année-là et qui ont été super sympas de m'accorder du temps et qui l'ont bien vécu, parce qu'eux aussi, en fait, finalement, ils ont bien aimé cette introspection-là sur qui ils étaient à cet âge-là et leur masculinité aussi à eux.
Mais il fallait le consentement de tout le monde.
Exactement. Mmh.
Vos parents, exemple, vous dites « mes parents ne dorment pas ensemble ».
Alors, mon père est décédé depuis...
Pardon.
Non, mais il n'y a pas de souci. Donc lui, je ne saurais jamais ce qu'il en a pensé, mais je suis sûre qu'il aurait été très content que je m'accomplisse. Donc voilà. Mais sinon, ma mère, ça a été tout un débat au début, puisque pas un débat, je lui ai dit que j'allais le faire, quoi qu'il arrivait. Mais elle, au début, oui, en effet, elle se disait, mais tu vas raconter ma vie. Et d'ailleurs, ce passage-là, elle m'en a parlé. Elle m'a dit quand même, c'est un peu intime. Et après, je lui ai dit que l'idée, c'était de raconter quelque chose qui dépassait quand même son histoire.
Oui, sans pas dépossédé,
enfin, non,
c'est pas senti dépossédé. Alors, le procédé dont on n'a pas encore parlé, deux voix, je crois que c'est une comédienne qui lit vos écrits
oui,
de 14 ans.
Qui s'appelle Marie Narbonne.
Et c'est vous qui les commentez.
Exactement.
C'est vous qui avez pensé à ça ou...
Oui, on en a discuté ensemble avec le studio Paradiso qui produit le podcast et notamment Jeanne Boisec et Louis Daboussi qui m'ont produit. Donc, je tiens à les remercier. Mais on a discuté de ça ensemble. On s'est dit que la meilleure manière de faire dialoguer. En fait, l'idée, c'était vraiment un dialogue avec moi-même. Et quoi de mieux que d'avoir la voix de mon journal intime et puis moi qui essaye de comprendre, de déconstruire en fait qui j'étais.
Lucie, est-ce que vous pensez qu'avoir eu 14 ans au début des années 2000 est très différent du fait d'avoir 14 ans, disons, aujourd'hui? Ou alors peut-être que les fondamentaux à l'aube d'une vie transcendent les époques? Qu'en pensez-vous?
Je pense que l'adolescence est assez universelle. Je pense évidemment, d'un point de vue de française, je ne pense pas que l'adolescence partout dans le monde soit la même, mais en tout cas, je pense que c'est assez universel et que oui, il y a les détails nostalgiques des années 2000 qui rythment le podcast, mais je pense que tout le monde peut s'y retrouver. D'ailleurs, je reçois aussi des commentaires et des messages de jeunes ados d'aujourd'hui qui, en fait, sont super contents parce que eux aussi, ça les interroge sur leur adolescence d'aujourd'hui.
Et alors, vos collègues de C'est Politique, l'émission de France 5 où vous travaillez, vous regardent différemment maintenant ?
Alors, je viens de la quitter, donc du coup...
Mais il n'y a pas de rapport ?
Non, il n'y a pas de rapport. Non, mais tout le monde est très content. Franchement, je me révèle, mais j'ai l'impression que partager son expérience, ça permet de mieux nous comprendre, de mieux comprendre les autres. Enfin, moi, je suis féministe quand même, et j'ai un peu l'impression... Enfin, j'ai toujours pensé que l'intime, c'était aussi politique et que... C'est que le privé avait sa place dans l'espace public, justement, et c'est ce que j'essaye de faire.
C'est quoi féministe, quand même ?
Alors, féministe quand même, ça veut dire que, en effet, ce podcast, il a une petite teinte légèrement, il est légèrement coloré féministe.
Mm-hmm. Et alors, cette première fois, c'était bien ? Non, ne me répondez pas. Mes 14 ans, série de podcasts signée Lucie Michaelian. On le trouve où ? On la trouve où, cette série ?
Partout. Deezer, Spotify, Apple Podcast.
Et le compte Instagram ?
Mes 14 ans.
Arrobase mes 14 ans. Merci beaucoup d'être passé par Culture Média. Cyril Ferraud présente une carte au trésor inédite ce soir sur France 3. L'animateur pose son hélicoptère sur le toit d'Europe 1 et puis il arrive.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Pascal Clark.
C'est quand même quelque chose, les jeux télévisés, qu'il faille cogiter, qu'il faille s'agiter. C'est un genre avec ses références mythiques, à chacun son genre de beauté. Il y avait les fous de Motus, il y a les gagas de Koh-Lanta, les toqués de Qui veut gagner des millions. Lui, il présente Slam chaque soir sur France 3 et aussi notamment La course au trésor, qui dans sa version initiale date de 40 ans, création Jacques-Antoine et sur le terrain Philippe de Dieu le veut. Bonjour Cyril Ferraud.
Bonjour Pascal.
Et maintenant c'est vous en hélico.
C'est ça, c'est moi le Philippe de Dieu le veut. Sauf que Philippe de Dieu le veut, il sautait de l'hélico.
Mais c'est ça,
il faisait
il
du parachute,
bien.
Il faisait plein de trucs. Alors heureusement, on ne m'oblige pas à faire ça.
Vous, petit bras alors ?
Mini bras, mais des bras costauds quand même. Parce que figurez-vous que je suis dans l'hélico qui fait toutes les prises de vue aériennes. Je suis retourné, puisque je parle à mon cadreur qui est assis à l'arrière de l'hélico, de façon à ce que les téléspectateurs voient défiler les paysages dans mon dos. Donc c'est-à-dire que je suis un peu comme dans Space Mountain toute la journée, puisque pour faire des prises de vue magnifiques en hélico, il faut faire des virages, il faut faire des piquets. Il faut pas voler comme dans un tapis volant.
Quand même, vous l'avez beaucoup regardé le jeu initial.
Énormément.
Reprendre il y a deux ans.
C'est même moi qui ai insisté pour qu'on le fasse sur France 3 et c'est France 3 qui m'a fait ce cadeau-là. Moi, je rêvais d'incarner un jeu d'aventure et je suis allé avec Emmanuel Garcia, qui est le patron des jeux, convaincre notre directrice de l'époque de France 3, lui dire je pense que c'est le moment de relancer la carte au trésor parce qu'il y a 10 ans, quand l'émission s'est arrêtée, on était en format 4/3. On était en basse définition. Or, c'est une émission qui est là pour montrer la beauté de nos paysages. Donc aujourd'hui, on est en ultra haute définition. On a des moyens de filmer, de tourner.
Il y a du drone, beaucoup.
Ouais, on utilise le drone au maximum quand on est au sol. Donc c'était vraiment le moment de relancer cette émission. Et je savais que relancer un jeu d'aventure sur France 3, il fallait mettre une marque qui avait manqué aux téléspectateurs.
Et c'est quoi la marque ?
C'est la carte trésor, justement, qui avait existé pendant 16 ans. Et que si on avait fait...
Ah oui, la marque, oui, pardon, j'avais pas compris. Oui.
Pardon, c'est peut-être moi qui me suis
mal exprimé. Non, la marque, j'ai du mal à parler business, mais la
c'est
marque...
C'est important, parce qu'aujourd'hui, c'est tellement difficile de lancer une nouvelle émission que je pense que cette émission avait manqué aux téléspectateurs et qu'elle s'inscrivait à 100% dans l'ADN de la chaîne.
Pourquoi est-ce qu'elle fonctionne encore, cette émission ? Parce que... Il y a ça au fond de nous, la chasse au trésor, c'est l'enfance, c'est ça ?
Je crois surtout parce que la star de l'émission, c'est notre pays. C'est à quel point notre pays est beau. Et je vous le dis honnêtement, quand on a tourné des régions comme le Lot, par exemple, que je ne connaissais pas.
Le patrimoine, il y a déjà de quoi faire, ça ne suffit pas.
Oui, mais on le fait de façon ludique avec la carte au trésor. C'est-à-dire qu'on est dans la case, et c'est ça qui était intelligent, c'est de nous mettre dans la case du mercredi, qui est la case habituelle de Déraciner des ailes. C'est-à-dire qu'il y a déjà un jour qui est dédié au patrimoine et à la beauté du paysage, sauf que nous, on rajoute un jeu d'aventure, on rajoute du suspense, on rajoute de l'émotion et c'est ça moi que je trouve formidable dans cette émission, c'est que je suis à la fois animateur de jeu et passeur de culture.
Alors deux candidats, un bleu, un rouge, chacun son hélicoptère, une région, ce soir c'est en Corse du Sud, Porto Vecchio, Bonifacio, Cyril Ferraud.
Ça fait beaucoup de haut.
Ah, les plages elles donnent envie, hein, franchement.
Les plages elles sont paradisiaques.
Surtout quand on travaille tout l'été, les plages franchement, je vous ai maudit. Hein.
C'est vrai
ouais,
Alors, on était presque en Polynésie, on a fait la Polynésie déjà avec la carte au trésor, mais là, survolé, Santa Giulia, Palombaggia, là on passe dans les A, vous voyez, après les O. C'était incroyablement beau. En plus, c'est une émission qu'on a tournée en octobre dernier, donc on était à des années-lumière d'une crise sanitaire.
Ah, c'était avant tout ça.
Bien avant tout ça. C'est pour ça que aujourd'hui, ce soir, vous allez voir des candidats très proches des gens dans les voitures, ce qui n'arrivera plus jamais, en tout cas dans les prochains épisodes. Toutes ces plages paradisiaques, de se dire qu'en France, on a des plages aussi magnifiques, pourquoi partir à l'autre bout du monde ?
Ouais. Alors, je donne le principe pour ceux qui ne connaissent pas la mécanique du jeu. Il faut récupérer des capsules qui mène à la Rose des Vents, qui mène à la salle au trésor, qui mène à 5000 euros.
Qui mène au trésor. La salle au trésor, c'est Fort Boyard.
Oui, pardon. Je m'en mêle avec tous ces jeux-là. Donc, qui mène au trésor, qui mène à 5000 euros. Hein, c'est ça, en gros. Oui. Ce soir, 21h05 sur France 3. On a un extrait, c'est Anis versus Matisse.
Est-ce qu'il y a un village à côté qui s'appelle Cani ? Cani.
Cani, C-A-2-N-I. Je ne mets pas l'accent, mais...
Oh, c'est peut-être un petit hameau en question.
Mais vers Kera, éventuellement
ou... Peut-être, ouais, peut-être autour de Saute. Cani, il y en a plein, il y a au moins une quinzaine de petits hameaux autour de Saute.
Merci, au courage, au revoir. Rodolphe.
Oui, madame.
Oui, pardon. On va partir en direction de Kera. Est-ce que tu vois où c'est?
Je vois où c'est.
Bon, Cyril Ferraud, qui a gagné?
Eh ben, vous le verrez ce soir, avec grand plaisir.
Moi, je sais, je peux le dire ou pas?
Ah non.
Je peux donner la couleur?
Oh non, vous ne donnez pas la couleur. Vous dites le ou la plus sympathique des deux.
D'accord. Alors, c'est une mécanique assez efficace, mais évidemment, il faut que les habitants coopèrent. Hein,
bien
parce
sûr.
Parce que, voilà, ils fournissent, ils aident, ils emmènent en bagnole, ils fournissent des indices. C'est toujours le cas, on voit que des gens qui coopèrent, ou alors vous avez des ciseaux magiques où vous enlevez les gros cons, en fait.
On croise pas beaucoup de gros cons, sincèrement. Il y a des gens qui refusent d'être filmés, il y a des gens qui refusent de prendre les candidats dans leur voiture juste parce qu'ils ont peur de passer pour des idiots s'ils savent pas les aider, s'ils savent pas répondre aux énigmes. Parce qu'il y a un truc intéressant dans cette nouvelle version de la carte trésor, c'est qu'on interdit aux candidats, tout comme tous les gens qu'ils croisent sur leur parcours, d'utiliser un téléphone portable, un GPS ou Internet. Ce qui veut dire qu'en 2020, on revient comme à l'ancienne, c'est-à-dire quand il faut aller à la mairie, quand il faut aller dans tel ou tel château, bah vous ne mettez pas Waze pour savoir par où il faut passer.
Mais je me mets quand même à la place des habitants. Vous êtes là, tranquille, dans votre vie, en Corse du Sud, et puis il y a quelqu'un qui arrive avec une caméra derrière et qui dit « Bonjour, c'est Anne-Lise. »
Je crois que c'est culte. Franchement, je crois que ce genre de situation reste quand même ancré dans la mémoire des gens, et ils sont toujours contents de prendre les candidats. Il y a quelques exceptions, effectivement, les coupes au montage quand des gens leur disent non, ça m'intéresse pas, etc. Ouais. Mais c'est rarissime, franchement, sincèrement, c'est rare.
Trois hélicoptères dans le jeu, un hélicoptère rouge, un hélicoptère bleu et le vôtre, Cyril Ferraud, quand même, c'est abusé.
Pourquoi abusé?
Rien, la planète.
Non, alors, par rapport à ça, déjà, on compense les émissions carbone de tous les hélicos sur le tournage. Ça, c'est en 2020.
Vous compensez, c'est-à-dire ?
On s'est associé à une entreprise qui s'appelle Reforest Action, qui replante des arbres dans les zones en souffrent. Non, c'est pas tant ça. C'est pas gratuit. C'est-à-dire qu'on se dit pas, on va prendre des hélicos gratuitement. C'est la seule machine qui permet de déplacer des candidats très vite sur un territoire donné avec un chrono. C'est le concept de l'émission. Et surtout, c'est encore aujourd'hui la seule façon de filmer la France vue du ciel avec des images comme ça. On utilise le drone dès qu'on peut sur la carte trésor, c'est-à-dire pour tous les plateaux au sol, on l'utilise. Sur les plateaux qui ne méritent pas d'être très très haut, parce qu'un drone, ça ne peut pas aller évidemment à n'importe quelle hauteur. Et ce n'est pas autorisé partout aussi, un drone. Et puis, on ne tourne pas la carte trésor comme on l'a tournée il y a 15 ans, par exemple. C'est-à-dire que par exemple, quand les candidats réfléchissent à leur énigme dans leur hélico, évidemment, tout est éteint. C'est juste quand ils choisissent leur première destination qu'on allume l'hélico, qu'ils se posent de l'autre côté. Enfin, vraiment, on économise l'hélicoptère, on l'utilise juste quand c'est une obligation.
Cyril Ferraud est dans Culture Média ce matin. On va continuer à parler de votre passion, je crois bien, les jeux télévisés.
A
tout de suite, vous êtes sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Le présentateur Cyril Ferraud. On dit présentateur ou animateur, ça vous importe pas?
Moi, j'aime bien présentateur parce que quand j'étais gamin et que je rêvais de faire ce métier, j'écrivais présenté par Cyril Ferraud. Et du coup, j'insiste toujours pour que dans les génériques, il y ait marqué présenté par au lieu d'animé par.
Le présentateur Cyril Ferraud passe par Culture Média. France 3 diffuse ce soir votre carte au trésor numéro inédit en Corse du Sud. Tournage avant confinement.
Ouais.
Après, ça donnera quoi ?
On a tourné la semaine dernière deux nouveaux épisodes de la carte au trésor avec les contraintes du Covid, c'est-à-dire que les cadreurs masqués dans l'hélico et au sol, avec les candidats qui montent à l'arrière des voitures et en diagonale de façon à être le plus loin possible des conducteurs. Non, mais c'est important. Et puis, on leur a donné des perches, c'est-à-dire qu'avant, ils avaient le micro au bout de la main et ils interviewaient les gens. Là, ils ont les mêmes perches que vous voyez au JT depuis des mois. Et puis avec ce qu'on appelle les gestes barrières, c'est-à-dire que moi, dans la carte, moi je touche, je suis très tactile. Donc je fais des checks, je prends les candidats dans mes bras, etc. Bah là, c'était impossible. Donc ça, c'était le truc le plus dur pour moi. C'était de ne pas leur taper dans la main pour leur souhaiter bonne chance ou de ne pas prendre dans mes bras le candidat qui a perdu.
Alors par où passent désormais vos gestes de présentateur empathique? Comment faites-vous maintenant pour exprimer l'empathie?
Ça passe encore plus par la voix. Ce n'est pas un truc que je vais vous apprendre. La voix, c'est un instrument magique.
Faites-nous une voix empathique. On vous écoute.
Non, je sais pas. Voilà, j'ai j'ai pas envie d'être empathique là maintenant, ce qui est important dans un jeu, quel qu'il soit d'ailleurs, que ce soit Slam que je présente ou Personne n'y avait pensé l'après-midi, ou la carte trésor en prime, la voix elle est primordiale, même si on fait de la télé, pour faire passer de l'émotion, pour faire passer du bonheur, pour faire passer du sourire, et encore plus dans la carte trésor qui est une émission de radio pour moi, parce que je suis dans un hélico, je vois depuis les airs ce qui se passe au sol.
Mais ce serait dommage quand même de ne pas avoir ces images magnifiques.
Alors, je les vois défiler depuis mon hélico, mais quand je veux voir par exemple le parcours des candidats, ce sont des Playmobil pour moi, vu de là-haut, vous voyez. Donc je ne vois pas vraiment ce qui se passe. Tout est à la voix.
Cyril Ferraud, vous qui êtes un piqué des jeux télévisés, quel est votre jeu culte, votre jeu préféré au monde ?
C'est Fort Boyard, que j'ai intégré cette année, qui est l'émission qui m'a donné envie de faire ce métier. Fort Boyard a commencé quand j'avais 4 ans, et c'est en envoyant des idées d'épreuve à la production du jeu que j'ai décroché mon premier stage à la télévision.
Mais à 4 ans, vous regardiez Fort Boyard ?
Ouais, ça a démarré quand j'avais 4 ans. Ah, je me rappelle très bien de Patrice Lafond, de Passepartout, de la toute première version du jeu, qui est très différente d'ailleurs de celle d'aujourd'hui, qui est vraiment un jeu très fictionné, très cartoonesque. Et quand on m'a proposé d'intégrer Fort Boyard cet été.
Ouais. Vous avez écrit pour suggérer des
idées d'épreuves, et j'ai décroché un stage effectivement à 17 ans.
Ensuite, vous avez fait l'émission à de nombreuses reprises. Depuis samedi dernier. La nouvelle saison a repris samedi dernier. Vous êtes, un personnage récurrent.
Un personnage, ouais.
Il s'appelle Cyril Gosbeau.
Si tu n'as rien dans la tête, tu t'en prends plein la tête.
Voilà, Cyril Bogos, c'est une idée de la production ou c'est la vôtre ?
C'est une idée de la production, moi j'aurais jamais eu cette idée, c'est absolument magique. Vous savez, moi j'aime bien les belles histoires, Fort Boyard c'est une belle histoire, c'est mon premier job à la télé, c'est l'émission qui m'a donné envie de faire de la télé. Quand on m'a proposé ce personnage d'animateur télé en plastique, puisque je suis une poupée, je suis Ken en fait, le petit ami de Barbie
Fort
Boyard.
Vous êtes Ken, et pour ceux qui ne vous ont pas vu, disons que vous êtes assez fluorescent.
Ah, je suis très fluorescent, très pailleté, avec les dents très très blanches, très bronzées et les cheveux très très blonds. C'était assez magique ce personnage parce que...
Caricature évidemment.
C'est une caricature.
Mais
ça
une
fait
caricature
des années.
De qui, de vous?
Bah de moi. Ça fait des années que j'entends dire c'est le petit blond qui a les dents blanches, etc. Donc montrer un
que j'avais d'autodérision.
Et elles n'ont jamais été blanchies. Alors je sais que c'est pas très radiophonique, mais je tiens à insister.
Regardez. Ah mais comment vous faites?
Je bois pas de café, je fume pas.
D'accord.
C'est peut-être la magie. Non mais c'était ce personnage, il est génial parce que il est drôle. On l'a beaucoup travaillé. C'est un animateur de jeu, donc c'est ce que je sais faire. Et en même temps, c'est un Cyril Ferraud, puissance 10 000. Alors, si un jour je deviens comme ça, il faudra me pousser du haut de la falaise.
Oh bah déjà, vous parlez de vous à la troisième personne.
Oui, c'est vrai. Ah non, mais je parle de Cyril Gosbeau.
Vous avez dit Cyril Ferraud,
c'est vrai
là.
Ouais. Ah oui, j'ai dit c'est un Cyril Ferraud, puissance 10 000. C'est vrai, autant pour moi.
Donc, il y a ceux qui vous voient comme ça, hein, le beau gosse aux dos blanches qui passe à la télé. Et en réalité, si vous deviez faire votre autoportrait en deux phrases?
Je pense que je suis un passionné, que je suis conscient de la chance que j'ai aujourd'hui de vivre mon rêve de petit garçon, en plus d'avoir un portefeuille de programmes très très large, avec aussi bien du jeu que des prime time d'aventure, que de la musique classique que j'incarne, que du cirque, que du spectacle vivant, et que j'ai toujours des étoiles dans les yeux quand j'arrive sur un plateau, quand je présente une émission et quand je vois un générique début ou que j'entends. Cette passion,
blasé,
elle est intacte, pas du tout.
Toujours aussi enthousiaste.
Et pourtant, je vais vous dire, ma première émission, c'était en 2005 sur Disney Channel. Donc, mine de rien, j'ai déjà 15 ans de carrière derrière moi à la télé. Et non, je suis toujours aussi enthousiaste parce que je mesure la chance que j'ai de faire ce job.
Alors, je crois que vous avez 35 ans, c'est ça. Ça veut dire que sur l'échelle de Michel Drucker, il vous reste un bon demi-siècle devant vous.
Ouais. Donc, il faut que je fasse attention à ma santé, là, c'est ça l'idée.
Non, mais comment vous voyez évoluer ?
Je me vois évoluer avec la télé, c'est-à-dire que je sais très bien, là j'ai la chance d'avoir un emploi du temps de malade mental, c'est-à-dire là par exemple, c'est ce que je vous expliquais, je suis déjà maquillé et coiffé pour aller tourner dès que je sors de ce studio, personne n'y avait pensé, mon jeu de l'après-midi. Je me vois évoluer.
Et vous avez les dents blanches.
En étant heureux, c'est peut-être ce qui cache le reste. Je me vois évoluer en prenant davantage de temps pour moi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je sais que ça marche très bien, on sait tous comment est fait ce métier, il y aura forcément un moment où ça marchera moins bien, ça sera l'occasion de développer davantage ma vie de famille, ou peut-être simplement moi d'arrêter peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, j'en sais rien, certaines choses que je fais pour retrouver un peu de temps personnel, parce que c'est important, c'est génial d'être épanoui dans son métier, mais c'est chouette aussi de l'être dans sa vie personnelle.
Vous avez, paraît-il, une envie un peu folle, c'est de relancer l'école des fans, vrai ?
Ouais, c'est vrai. Je trouve que c'est un peu comme la carte trésor. Je trouve que c'est une émission qui manque à la télé. Les enfants, c'est tellement magique. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'émissions qui mettent les enfants à l'image et qui les mettent en avant de cette façon-là. L'école des fans, c'était basique. C'était des enfants qui avaient entre 5 et 10 ans et qui venaient s'exprimer comme des enfants, quoi.
Ouais, mais une nouvelle version, jeu du passé ou alors quelque chose acheté à l'étranger, il n'y a rien à inventer encore en termes de jeu télévisé.
Vous faites bien de dire ça, puisque Slam, que je présente depuis 11 ans, c'est un jeu français, 100% français, et qui s'est exporté depuis dans 6 ou 7 pays. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo.
Qui l'a inventé, c'est vous, non ?
C'est Jean-Michel Salomon qui a inventé Tout le monde veut prendre sa place, le jeu de Nagui le midi, qui a inventé 4ème duel aussi. Et pour la petite anecdote, Jean-Michel qui a créé Slam, c'est celui qui crée les épreuves de Fort Boyard quand moi j'étais stagiaire à l'époque, c'est-à-dire qu'il m'a connu quand j'avais 16-17 ans et que je venais tirer sur sa chemise pour lui dire « Allez, montre-moi les nouvelles épreuves de cet été ». Et quelques années après, j'incarne son jeu, et depuis 11 ans, et un jeu qui marche toujours aussi bien tous les après-midi.
Comme quoi il y a des belles histoires, y compris à la télévision. Merci beaucoup Cyril Ferraud d'être passé par Culture Plus.
Cyril Ferraud, c'est pas mal aussi,
ouais,
je trouve.
J'essayais, vous voyez, Gosbo, beau gosse, je me suis dit je vais tout mélanger.
C'était un plaisir, Pascal. Vraiment.
Merci à vous, la carte au trésor ce soir 21h05 sur France 3. Qui a gagné alors ?
C'est une couleur entre le bleu et le rouge.
Et Slam, évidemment, chaque soir. Merci à vous, et
merci,
bon tournage
Pascal.
Alors. Connaissez-vous Christo et Jeanne-Claude, couple fusionnel, ne faisait qu'un, sauf médiatiquement. Nous visitons ensemble, après 10 heures, l'expo du Centre Georges Pompidou. Bon, ça va ce matin ?
Europe 1, Culture Média, Pascal Clark.